Il est midi, Info Week-end avec Michael Juneski.
Deuxième journée de visite en Calédonie pour Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer a rencontré les gendarmes de la brigade de Saint-Michel au Mont d'Or, un site qui a été pris pour cible à plusieurs reprises par les émeutiers en 2024. Une séquence économique était également à l'ordre du jour. L'État sera à vos côtés, a déclaré Manuel Valls devant des entrepreneurs dans les décombres du centre commercial Kenwin, pillé et ravagé durant la crise insurrectionnelle. Un mot d'ordre, le pragmatisme. Alcide Ponga, le président du gouvernement, était l'invité du magazine Transparence au lendemain de sa déclaration de politique générale. On y revient dans ce journal. L'actualité nationale, quelles que soient les plaies de l'histoire, aucun pays n'a un droit de tirage pour humilier la France. Déclaration du ministre de l'Intérieur après l'attaque terroriste de Mulhouse. Bruno Retailleau appelle à poser un rapport de force avec l'Algérie. L'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a inauguré la plus grande ferme du monde, 600 000 visiteurs attendus durant 9 jours. Des Calédoniens sont présents d'ailleurs à Paris pour l'occasion. Un stand est installé dans l'espace des Outre-mer avec la Chambre d'agriculture et de la pêche, une belle vitrine pour les produits du territoire. Et puis le sport, belle réussite pour le Blue Bat Trail à Dimbéa. Plus de 700 coureurs se sont élancés sur les parcours au départ du Yala Range ce matin. Soyez les bienvenus dans Info Week-end. À la une ce midi, la deuxième journée de la visite de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Une deuxième journée que le ministre a débutée dans la commune du Mont d'Or. Il s'est en effet rendu à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel, Lionel Sabot.
Oui, la brigade de gendarmerie de Saint-Michel au Mont d'Or qui a été particulièrement sollicitée, vous le savez, lors des émeutes insurrectionnelles du mois de mai dernier. Une brigade qui a même dû faire face à plusieurs attaques d'émeutiers. Lors d'une courte cérémonie dans l'intimité de la cour de cette brigade qui jouxte le lycée du Mont d'Or, le ministre des Outre-mer a décoré 5 gendarmes et a salué une nouvelle fois l'engagement des forces de l'ordre lors des émeutes. Écoutez Manuel Valls qui s'est adressé ce matin aux gendarmes, mais aussi à leurs familles.
C'est à travers eux l'ensemble des gendarmes qui interviennent, qui agissent en Nouvelle-Calédonie depuis bien longtemps, et tout particulièrement pour faire face aux émeutes violentes, évidemment inacceptables, qui ont commencé il y a presque un an, le 13 mai 2024. Je voudrais dire mon émotion et combien je suis honoré de passer ce moment avec vous. Sachez que c'est grâce à vous, grâce à votre engagement, que nous pouvons aujourd'hui entamer des discussions qui, j'espère, pourront aboutir à un accord et à la paix civile parce que ce magnifique territoire que la Nouvelle-Calédonie le mérite. Votre présence et votre engagement est la démonstration que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se bâtit avec la France.
Et Manuel Valls ce matin à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel au Mont d'Or. Rappelons que le ministre des Outre-mer s'était incliné hier devant la stèle rendant hommage au gendarme Nicolas Molinari, tué aux premières heures des émeutes en 2024 à la brigade de gendarmerie de Ploumes.
Après cette cérémonie, le ministre des Outre-mer a ouvert une séquence plus centrée sur l'économie en se rendant sur le site de Kenwin à Dimbéa.
Un centre commercial totalement pillé et détruit lors des émeutes. C'est un vrai spectacle de désolation qu'a découvert Manuel Valls ce matin à Dimbéa. Le ministre a été accueilli sur place par le maire de la commune, Johan Lecourieux, mais aussi par Mickaël Dibbel, le directeur général du centre commercial, la gérante d'un salon de coiffure qui était installé dans la galerie marchand depuis plus de 20 ans. Également en présence ce matin, le président de la CCI, David Guyenne, les représentants du MEDEFNC, dont Laurent Virconlay, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, et le sénateur Georges Naturel, Manuel Valls, qui a tout d'abord pris le temps d'écouter en arrivant sur le site de Kenwin.
Tout le monde attend de savoir Kenwin s'y repart et à quel moment, et à partir de là les autres vont suivre, parce que sinon il faut vraiment avoir un pouvoir attractif de plusieurs
bien sûr. Comme oui, la reconstruction va se faire, oui. Pas mal d'aléas et oui. Beaucoup de temps.
Vous savez ici, monsieur le ministre, un concentré de toutes les problématiques actuelles et les défis futurs.
Le salon de coiffure est estimé à 52 millions quand même, hein. C'est peut-être pas grand-chose pour que les... Mais pour moi c'est beaucoup. Donc ça veut dire que si j'ai pas les assurances, je peux pas reconstruire. J'ai mis 25 ans pour avoir une équipe qui tenait la route. J'ai été obligée de licencier mon personnel parce que je peux pas les maintenir pendant un an. Si je repars pas d'ici le mois de mai, je perds ma perte d'exploitation. Alors moi j'aimerais qu'on me dise comment je m'en sors parce que depuis mai j'ai zéro revenu et je me retrouve coincée entre les assurances. Les banques ne vont pas me prêter à l'âge que j'ai.
on a un problème général sur la Nouvelle-Calédonie, ou c'est sur le même type de problème à Mayotte, évidemment, dans un autre contexte. Donc là, il faut qu'on les fasse bouger, parce que vous retrouvez là, notamment les petits commerces, dans une situation que vous venez de décrire parfaitement, qui est impossible.
Il y a un autre sujet qui est pas anodin, auquel on pense jamais, c'est que la reconstruction devra probablement obliger les administrations et les banques à devenir un peu moins rigides.
Oui. Il faut l'intelligence collective, oui. Il faut du
sang. Après avoir déambulé dans les décombres de ce qu'il reste de la galerie commerciale, le ministre des Outre-mer a pris la parole devant la presse, l'occasion pour lui de rappeler que l'État sera aux côtés du monde économique.
L'État est aux côtés, en soutien du monde économique. C'était le sens du forum économique que nous avions tenu il y a quelques semaines à Bercy, et avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec la province sud, avec évidemment les maires, notamment le maire de Numbea, nous allons poursuivre avec les acteurs économiques, MEDEF, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de métiers, les investisseurs eux-mêmes d'abord. L'État sera là pour la reconstruction du pays et de l'activité économique. Pour que cette activité économique puisse se poursuivre, il faut évidemment une perspective politique, il faut assurer la sécurité, il faut que tous les acteurs jouent leur jeu. Et je pense notamment aux assureurs et aux banques. Chacun doit être placé devant ses responsabilités. L'État est présent en termes d'engagement financier en Nouvelle-Calédonie depuis toujours, et l'est depuis l'été dernier. Et je confirmerai les engagements financiers de l'État, et pour venir aussi non seulement soutien aux entreprises, mais à ceux qui sont dans le chômage. Ici, ce sont des dizaines d'emplois qui ont été détruits.
Emmanuel Valls qui a par ailleurs salué les entrepreneurs qui envisagent ou qui ont déjà décidé de reconstruire, de redémarrer leur activité. L'État sera donc présent, vous l'avez entendu, Emmanuel Valls, d'appeler tous les acteurs à jouer le jeu.
Je suis très déterminé à ce que chacun assume pleinement ses responsabilités. Indemnisation, réassurance, accompagnement, et puis s'il faut modifier les outils de l'État, je pense notamment à tout ce qui est la défiscalisation pour aller plus loin, nous le ferons. Moi, je suis très attaché à ce que l'État et donc le gouvernement démontrent encore une fois que la France est là pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.
Emmanuel Valls qui poursuit la séquence économique de ce dimanche en brousse. Il visitera d'ici une petite demi-heure maintenant une exploitation agricole à Moindou, puis une centrale photovoltaïque et une ferme aquacole à Boulou-Paris.
Et j'ajoute qu'à son retour de ce déplacement en brousse en fin de journée, le ministre des Outre-mer dînera au Centre culturel Tibaou avec les membres du comité Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Hier, la première journée de la visite de Manuel Valls avait notamment été le théâtre de plusieurs séquences où le ministre des Outre-mer a été vivement interpellé par les partisans de la France. Au Mont Coffin, après une cérémonie militaire, même si Manuel Valls avait déclaré par la suite « La France est toujours là, le lien avec la Calédonie est fort ». Il a également échangé avec des manifestants, plus de 500 personnes présentes. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de peur aussi. Le ministre des Outre-mer a encore eu de vifs échanges avec Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, et Sonia Baques, la présidente de la province sud, au Mont d'Or, à Ploum, toujours à propos des déclarations faites avant sa venue sur le territoire, sur la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Une explication musclée après un hommage qui avait été rendu au gendarme Nicolas Molinari, tué au début des émeutes de mai 2024. Le ministre des Outre-mer avait d'abord été accueilli par l'association Citoyens Mondoriens chantant la Marseillaise. Hier toujours, Manuel Valls s'était également rendu au Sénat coutumier pour un accueil au siège de l'institution à Nouville. Il a terminé sa première journée en se rendant à Ouvéa où il a passé toute l'après-midi. Il a débuté ce déplacement sur l'île en déposant une gerbe au pied de la stèle érigée dans l'enceinte de la brigade de Fayaoué, stèle à la mémoire des 4 gendarmes et des 2 militaires tués lors des événements de 1988. Manuel Valls a ensuite échangé avec les gendarmes en poste aujourd'hui à Fayaoué. Le ministre des Outre-mer s'est ensuite recueilli à la tribu de Wadjia devant le mémorial des 19 avant un échange avec le président de la province des îles, Mathias Waneux, et une rencontre avec les maires de Lifou, Marais et Ouvéa. Écoutez Maurice Tilewa, le maire d'Ouvéa.
Il voulait vraiment avoir le ressenti des gens d'Ouvéa. Et d'ailleurs, il a pris tout le temps qu'il fallait pour discuter avec les gens. Voilà, avant de rencontrer, bien sûr, les autorités de l'île. Il y a eu d'abord l'échange avec les coutumiers, dans un accueil traditionnel avec les coutumiers. Donc les échanges ont été très fructueux. Après, le ministre s'est orienté pour déposer une gerbe à la gendarmerie. Après, il est allé sur la tombe des 19. C'est là-bas qu'il a pu échanger une deuxième fois avec les coutumiers, mais également avec Monsieur Makiwea qui était présent. Après, on est allé à la mairie, donc il y a eu un premier échange avec le président de la province et sa délégation. Nous, les maires, on a été reçus dans un second temps. On a pu échanger nos problématiques au quotidien que nous rencontrons, et il a pris tout le temps pour discuter avec nous. C'est un ressenti très positif. Je pense qu'il y a une ferme. Aujourd'hui, il y a une attente qui est très forte. Et je pense qu'on sent cette volonté aujourd'hui de voir vite déboucher sur un accord, des accords stables, qui nous permet de mieux prospérer vers l'avenir.
Maurice Tilloy, le maire d'Ouvéa, Manuel Valls, qui a quitté Lille un peu après 18h30 hier soir. Manuel Valls va donc passer 8 jours au total sur le territoire et je vous rappelle ce rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Demain matin, le ministre des Outre-mer sera notre invité du matin. Une interview à suivre en direct à 7h30. Alcide Ponga assume sa volonté de pragmatisme. Le président du gouvernement était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence au lendemain de la déclaration de politique générale qu'il a prononcée devant le Congrès. Il est revenu sur les grandes lignes de ce discours, Lionel Sabot.
Une déclaration de politique générale préparée avec l'ensemble des membres du gouvernement collégial, souligne Alcide Ponga, qui confirme que l'action de ce 18e gouvernement se résume à un mot: le pragmatisme. Il souligne que la situation de la Calédonie l'exige et précise que l'objectif est avant tout d'insuffler un élan collectif.
Le 18e gouvernement ne fera pas tout, ne résoudra pas tout. Mais si nous pouvons engager des choses et installer un certain élan, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les différents secteurs du gouvernement, que ce soit entre les institutions et les collectivités, si on arrive à installer cet élan-là, je pense qu'on aura fait énormément de choses. Parce que la situation d'aujourd'hui nécessite qu'il y ait un élan collectif pour pouvoir répondre aux problématiques auxquelles on a à faire face.
La situation de la Nouvelle-Calédonie est véritablement catastrophique, insiste Alcide Ponga, qui préconise un assainissement. Il faut d'abord réduire les dépenses publiques.
Pourquoi je réduis les dépenses publiques? C'est parce qu'on ne peut plus les assumer. Et donc, il faut mieux les réorganiser. Il y a certainement des doublons. Il y a certainement des établissements publics qui font quasiment à peu près la même chose. Et c'est pas que moi, ça s'est fait par le passé. Donc, il faut continuer ces démarches-là. Et il y a le plan d'évolution de l'administration qui a été travaillé déjà par mon prédécesseur et le 17e gouvernement. Il faut le mettre en action aujourd'hui. Donc, il faut modifier les choses. Travailler sur cette dépense publique. Parce que les économies qu'on sera capable de faire, on ne va pas faire des économies pour les garder dans les caisses. Les économies, c'est pour les réinjecter dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie et refaire des investissements.
Il faut lancer des réformes, des réorganisations et réussir à engager les gens dans une démarche d'amélioration, souligne le président du gouvernement, qui tient aussi à rappeler que l'argent géré par les collectivités, c'est l'argent de tout le monde.
Les fonds publics qui sont gérés dans l'ensemble des collectivités, c'est pas le gouvernement, c'est pas les fonds du président du gouvernement. Les fonds qui sont gérés par les maires, c'est pas les fonds des maires. Ça, c'est les fonds de l'ensemble des Calédoniens. Et je le dis souvent, dans mes équipes petites que j'avais à gérer précédemment, l'argent qu'on est amené à gérer dans nos collectivités, dans nos mairies, c'est l'argent de la population qui dépend de nous. C'est pas notre argent à nous. On n'est pas là à faire les malins, là, à dire oh, « ben, c'est moi qui gère l'argent », etc. Non. Ça, il faut le gérer en fonction du besoin de la population et des politiques publiques qu'on sert. Et c'est en ce sens-là que je parle d'économie, d'une meilleure réorientation, et puis peut-être de rendre plus efficace aussi, on va dire, l'administration. Parce qu'on parle depuis des années de oui, on va moderniser, on va rendre plus... Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler, puis il faut qu'on fasse.
Le deuxième axe privilégié par le gouvernement, c'est la relance de l'économie, relance notamment du secteur minier. L'occasion pour Alcide Ponga de rappeler que c'est une compétence typiquement calédonienne.
On sait pertinemment aujourd'hui que si on reste tout seul avec les problématiques auxquelles on a à faire face sur les questions minières et énergétiques, je ne donne pas cher de notre peau. Donc on a besoin du soutien de l'État sur ce point-là. Parce qu'on a toujours eu l'habitude de parler tout seul de la mine en Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur la mine, c'est de relancer les activités là où elles peuvent être relancées. Je sais qu'il y a des mines qui sont encore fermées sur la côte Est. Il faut débloquer, il faut que le travail reprenne. Ce n'est pas une question de SLN, ou ce n'est pas une question de NMC, ou ce n'est pas une question de ci ou ça. C'est une question de remettre de l'essence dans le moteur de l'économie calédonienne. Et on sait bien que si la mine, elle redémarre, ça va régénérer des choses pour l'ensemble de l'économie calédonienne. Et ça, c'est une compétence, c'est une responsabilité qui est la nôtre.
Il faut relancer les activités sur les sites miniers et après, il faut solliciter l'État, notamment sur la question énergétique, affirme le président du gouvernement, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Alcide Ponga, qui inscrit le 18e gouvernement dans une continuité d'action concernant le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction.
On s'inscrit dans une continuité d'action de ce qui était fait. Le PEA, plan d'évolution de l'administration, sort de cette réflexion-là. Donc on va le prendre. Moi, je ne suis pas là pour réinventer la poudre. Vous savez, il y a des choses qui sont là, qui ont été faites. Je suis arrivé, j'ai regardé, ça c'est bon. Et puis on a pris ce qu'on a le temps de faire. On ne fera pas tout parce que le plan PS2R s'était étalé sur 3 ans, je crois. Nous, on essaiera de faire ce qu'on sera capable de faire de ce plan-là en 10 mois. On n'a pas le temps de réfléchir et puis de repenser à autre chose. On va prendre ce qu'il y a et puis on va appliquer et puis on va le faire.
En conclusion de sa déclaration de politique générale, Alcide Ponga avait affirmé qu'il faut répondre à une question. Que voulons-nous ? Une question qui s'adresse aux responsables politiques.
Tous les efforts que les Calédoniens, les entreprises qui vont investir s'ils veulent réinvestir, les économies qu'on fera dans les administrations, etc. et tout. Tous ces efforts-là, ils seront vains si, à la fin, on ne trouve pas une issue paisible, stable pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un appel aux responsables politiques que nous sommes. Je pense et je crois comprendre que le message, il a été reçu. Et j'ose espérer que les choses se passeront la semaine prochaine avec la visite du ministre Valls et que ça bougera un peu parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans une situation telle qu'elle aujourd'hui sur le plan politique et qu'on reste avec du brouillard sur le pare-brise parce qu'on ne sait pas où on va.
Une interview du président du gouvernement Alcide Ponga qui sera rediffusée ce soir. Ce sera juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Lionel Sabot. Il est midi passé de 17 minutes. On va marquer une courte pause publicitaire avant de voir le reste de l'actualité et notamment cette attaque terroriste qui a fait un mort à Mulhouse en métropole. À tout de suite.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Mickaël Juleski.
À l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au commissariat de Mulhouse quelques heures après l'attaque au couteau qui a fait un mort. La victime est un homme d'une 60aine d'années d'origine portugaise qui aurait tenté de s'interposer. 3 policiers municipaux ont également été blessés avant que l'assaillant ne puisse être interpellé. L'individu a crié à la Ouagbar avant son passage à l'acte. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans qui était connu des services de police, fiché S, et qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais l'Algérie avait refusé à 10 reprises qu'il ne revienne sur son sol. Bruno Retailleau appelle à changer les règles.
Je pense que on doit changer les règles. Comment est-ce que les Français peuvent comprendre cette situation ? Un individu qui pendant des années s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Un individu qui était condamné par la justice française pour apologie du terrorisme. Un individu qui avait un profil psychologique particulier puisqu'il avait fait l'objet, dans le cadre de son arrestation, d'une expertise qui avait détecté un profil schizophrène. Est-ce que les Français peuvent comprendre que ces individus peuvent se déplacer librement sur le territoire ? Je pense que pour ces individus-là, jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays, on devrait les maintenir en rétention.
Et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, évoque à nouveau le cas des tensions avec le régime algérien.
La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français.
Bruno Retailleau, après cette attaque survenue à Mulhouse et qui a fait une victime donc, l'assaillant a quant à lui été placé en garde à vue. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.
À Radio Rythme Bleu, 12h20.
À l'étranger, nouvelle libération sous tension d'otages israéliens. 6 otages ont été relâchés en échange de plus de 600 prisonniers palestiniens. Le Hamas avait exhibé 2 des otages israéliens à Rafah avant de les remettre à la Croix-Rouge. Il s'agissait du 7e échange d'otages depuis le début de la trêve à Gaza. Des nouvelles inquiétantes en provenance du Vatican. Le pape François est dans un état critique selon le Saint-Siège. Le souverain pontife est hospitalisé depuis le 14 février dernier pour des problèmes respiratoires. Son pronostic vital est réservé, précise encore le Vatican, alors que le pape François a été victime d'une crise respiratoire asthmatique prolongée. On rappelle qu'il est âgé de 88 ans. À Paris, une inauguration dans le calme pour Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. L'inauguration de cette 61e édition donc, le président de la République a échangé notamment avec les représentants des principaux syndicats du secteur. Il a appelé au calme, au dialogue respectueux. Le chef de l'État est resté près de 12 heures porte de Versailles sans débordement, contrairement à l'année dernière.
Mais c'est pour ça que je suis là. Je suis là les années difficiles, je suis là les années plus faciles. Parce que c'est comme ça qu'on mène un pays. Il faut tenir.
De nombreuses personnalités politiques sont encore attendues sur place tout au long de la semaine. Un salon de l'agriculture où la Nouvelle-Calédonie est représentée avec la Chambre de l'agriculture et de la pêche qui a envoyé des produits à Paris. Le stand se trouve dans l'espace des Outre-mer, dans un village de 400 mètres carrés dédié aux 3 territoires français du Pacifique, à côté de Wallis et Futuna et la Polynésie française. La délégation calédonienne propose aux visiteurs 60 kg de crevettes, 100 kg de thon, 120 kg de viande bovine, sans oublier un stock important de produits présentés par la province sud. Pour le vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Rudy De Villers, c'était important d'être présent à ce salon.
Aujourd'hui, on a, nous, en tant que producteurs, qu'on parle en végétal ou en animal, on fait face à une baisse de la consommation. Et cette baisse de la consommation, il faut qu'on trouve des solutions pour derrière que tous ces producteurs puissent continuer d'écouler leurs produits. Donc aujourd'hui, il était important d'être là au salon pour valoriser nos produits. Aujourd'hui, on exporte déjà de la crevette, du thon de qualité. Et donc, on a une filière apicole où on produit du miel en grosse quantité et qui pourrait être ouvert sur le marché international. Et pourquoi pas au niveau de la viande, parce qu'il faut le rappeler, on fait du produit de qualité. On a des élevages qui sont nourris pour la quasi-totalité à l'herbe. Et aujourd'hui, ça se recherche dans le monde.
Rudy De Villers, le vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. 600 000 visiteurs sont attendus pendant 9 jours dans la plus grande ferme du monde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraille, c'est le 99.
Un retour à l'actualité en Calédonie avec au chapitre des faits divers un caillassage qui a fait 2 blessés hier soir au niveau du pont de la Tontouta. 2 personnes qui se trouvaient dans un véhicule et qui ont donc reçu le projectile. Elles ont dû recevoir des points de suture. Une enquête est en cours. En bref, toujours à Nouméa, la journée des anciens se déroule au foyer de l'amicale vietnamienne ce dimanche. Un rendez-vous dans la continuité des festivités du nouvel an sino-vietnamien. Et puis hier, l'événement Fête du sport organisé par la ville de Nouméa a attiré plus d'un millier de visiteurs et notamment la jeunesse en période de rentrée scolaire.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Souvenir de rentrée, le petit plus sur RRB pour accompagner cette rentrée scolaire. Un chef d'établissement nous raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle de l'évolution de son métier. Aujourd'hui, on écoute le témoignage de Thomas Carlin, le responsable du lycée agricole d'Oneva à Wailou.
Mon principal souvenir de rentrée, c'était en 6e au collège donc. Et c'était une rentrée très agréable parce que l'on découvrait notre emploi du temps et des nouveaux profs, une diversité d'enseignants qui me plaisait beaucoup. Alors c'était le collège Berlioz à Colmar et notre principal c'était monsieur Fuchs qui est devenu ensuite député durant la période où j'étais au collège Berlioz, qui n'existe plus d'ailleurs parce qu'on l'appelait Lustucru, le collège, vu que c'était des boîtes en amiante bleues et blanc comme les boîtes Lustucru à l'époque.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement?
Énormément d'évolutions. Il y a eu une évolution pédagogique, d'abord, avec des enseignements beaucoup plus proches de l'élève, avec une individualisation des parcours. Bon, après, moi, j'ai passé tout mon cursus à l'école publique, vu que l'enseignement privé avait un autre statut en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, je n'ai enseigné que dans l'enseignement privé. Donc j'ai noté aussi des rapports humains beaucoup plus proches, beaucoup plus conviviaux, des établissements aussi beaucoup plus petits. Il y avait des grands, grands changements quand même à l'époque, parce qu'on avait le droit de fumer. Il y avait même de l'alcool à table, à l'internat. Donc tout ça, avec la loi Evin, ça a beaucoup changé. En mieux, parce que je me souviens, en troisième, tout le monde fumait.
Thomas Carlin, le responsable du lycée agricole d'Oneva de Wailou, qui répondait aux questions de Kélinda Boicourt.
C'était les pages souvenirs de rentrée, offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Il est midi passé de 26 minutes, une dernière page de pub avant de voir tout le sport.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. Jusqu'au vendredi 7 mars, jouez avec Créator et tentez de gagner un magnifique collier en perles de Tahiti. Un cadeau d'une valeur de 120 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Venez découvrir nos bijoux dans vos trois magasins Créator, Centre-Ville Alma, Hyper Upaïta et 7e kilomètre. Créator, des bijoux pour toute la famille et tous les budgets. Des bagues, des colliers, des perles et des diamants. Alors pour tenter de gagner ce magnifique collier en perles de Tahiti offert par Créator, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 7 mars à 14h, 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, du football, la 23e journée de Ligue 1 et ce choc ce matin qui opposait Lille à Monaco. Ce sont les Lillois qui l'ont emporté sur le score de 2-1. Lille qui passe donc devant son adversaire du jour au classement et qui monte provisoirement sur le podium. Un résultat important avant deux confrontations contre le PSG en Coupe de France et contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Le coach de Lille, Bruno Genesio.
Ce que je regrette juste, c'est que les huitièmes de finale de la Champions League sont prévus depuis longtemps. Donc soit on ne croyait pas en la qualification des clubs français pour les huitièmes de finale, soit il y avait peut-être manière de faire autrement et de ne pas mettre une affiche Lille-PSG à trois jours d'un match aller de Champions League.
Autre rencontre du jour, Saint-Étienne et Angers qui se sont quittés sur un score de parité, 3-2. Et puis la troisième rencontre du jour, Auxerre et Marseille, ce sont les Auxerrois qui ont battu l'OM sur le score de 3-0. On passe au rugby.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
La suite du tournoi destination, troisième journée de compétition, la France affrontera l'Italie la nuit prochaine dans une compétition très serrée et après la défaite en Angleterre. Pourtant, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, estime qu'il n'y a pas plus de pression avant de jouer face aux Italiens.
Même si on avait gagné en Angleterre, on aurait aussi la pression de gagner là, donc ça, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses.
Un match à suivre à partir de 2h du matin. Dans la composition du 15 de départ, on retrouvera les Calédoniens Peato Mauvaka et Yoram Moefana. Aujourd'hui, l'Irlande, c'est imposé sur le Pays de Galles sur le score de 27-18 et reste donc en tête du classement, toujours invaincu avec 3 victoires en 3 matchs. L'Angleterre a battu de justesse l'Écosse sur le score de 16-15.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Encore un mot de sport sur la scène nationale et internationale avec deux nouvelles médailles pour la délégation française au championnat du monde de biathlon. Le relais dames qui a décroché l'or en écrasant la concurrence. Julia Simon, Justine Bressas-Boucher, Lou Jean Monod et Océane Michelin ont devancé la Norvège. Le relais messieurs avec Émilien Claude, Fabien Claude, Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet a remporté la médaille d'argent. La compétition se poursuit en Suisse.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Un rendez-vous sport sur le territoire, le Blue Bat Trail, organisé par Pro Events en partenariat avec RRB. Le départ était donné ce matin au Yala Range. Plus de 700 coureurs au départ des trois parcours proposés. Une édition réussie selon Julie Prunet, l'une des responsables de Pro Events.
Donc nous sommes satisfaits de cette super édition avec ambiance. Nous avons le premier Ludovic Lancelier qui est arrivé avec un temps de 1h30 pour les premières féminines sur le 15 km. C'est Angèle Claire. Voilà, de l'ambiance, un petit peu de pluie nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Et on est ravis, encore une fois, de cette super édition.
Et sur l'épreuve reine de 15 km, Ludovic Lancelier donc s'est imposé en 1h30 24 secondes devant Paul Jouffray et Samuel Conan chez les dames. Victoire d'Angélique Plaire en 1h45 38 secondes devant Natalia Prado et Elodie Collienio. Il est midi passé de 31 minutes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point sur l'info à 13h en vous souhaitant de passer une excellente après-midi toujours sur RRB.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.